Vous pouvez éventuellement aussi vous faire passer ce petit schéma-là, qui est le premier, hein, la couverture d'un prospectus de l'Institut dessiné par Alexandre de Salzmann, la femme de Madame de Salzmann qui a repris, hein, la Fondation Gurdjieff. Le texte russe se lit comme suit, en haut, savoir, comprendre, être, la science du développement harmonique de l'homme, selon la méthode Gurdjieff, section occidentale. Donc vous voyez ici, vous avez deux anges, hein, l'ange du positif et l'ange du négatif, mais tous les deux sont inspirateurs à égalité, hein, de l'homme. Hein. Et on va retrouver ça dans la psychologie jungienne, avec la face ombrageuse et la face lumineuse que peut avoir l'homme. Jung, je ne sais pas si on va avoir l'occasion de le redire tout à l'heure, eh bien, est aussi dans ce courant théosophique, d'initiation théosophique, où Dieu aurait lui-même sa face d'ombre. Hein ? On est là plus proche des perspectives gnostiques manichéennes que d'une perspective de la révélation chrétienne. Or, je dis en passant, Kanzelgrün, hein, ce bénédictin qui ne cesse de publier et que dont on voit les bouquins, on ne sait pas combien il a écrit de bouquins, Kanzelgrün, c'est invraisemblable. Hein. Eh bien, on le retrouve dans toutes les librairies catho, est un adepte de Jung. Alors, il suffit pour cela, si vous voulez, je vous donne une référence, c'est Psychologie du Nouvel Âge, un jésuite Posaki, qui a écrit autour de ces questions, voilà, de Jung. Parce que là, vous voyez, encore une fois, on est dans une perspective englobante où tout est dans tout. Hein? Voilà. Là-dedans. Alors, l'énéagramme, 9 pointes. Vous avez un premier triangle qui est comme ceci, un triangle donc équilatéral, hein, vous voyez, avec trois centres, un centre instinctif, un centre mental, et un centre émotionnel. Donc vous voyez, comme ça. Et puis vous avez 9 pointes. 9 pointes déterminées ici par un certain nombre de critères. Vous voyez, vous avez le 1, c'est perfectionniste. Mais dans la tradition de Gurdjieff et des grands initiés de la quatrième voie, il n'est pas question de nommer, si vous voulez. Hein. C'est donc Icaso qui a nommé en premier lieu un certain nombre de types, vous voyez, représentatifs. Alors le premier, le 1, c'est le réformiste, perfectionniste. Mais il peut être aussi réformiste, aboutisseur. Il aime bien faire aboutir les choses. Mais à chaque caractérologie, il y a sa compulsion, d'après ce système, qui est irrémédiablement associée au caractère. Vous voyez ? Pascalide a fait une tentative en faisant jouer ces différents types avec les péchés, hein, les 7 péchés, et il en a rajouté 2 pour faire un peu, pour essayer de combler un peu les 2 qui manquaient, si vous voulez, et voilà. Mais alors attention, premier degré de réflexion. Si chaque tempérament est irrémédiablement associé à sa compulsion, où se trouve la liberté ou la non-liberté du pécheur ? Si notre tempérament a sa face d'ombre qui est lui est irrémédiablement associée, où se situe la liberté de pécher ou de ne pas pécher, vous voyez ? Si on est déterminé par l'inverse de notre tempérament, c'est la part d'ombre, vous voyez ? Donc là, il y a un premier questionnement qui se passe par rapport à notre tradition chrétienne. Voilà. Donc vous avez le perfectionniste, l'altruiste, qui est indispensable, celui qui va sauver, hein. Mais en même temps, cet altruiste a sa face d'ombre qui serait d'être manipulateur ou flatteur. Le 3, c'est le battant, gagnant, celui qui veut y arriver. Mais sa face d'ombre, ce serait d'être obsédé par son image, frimeur. Vous voyez, il y a quand même des parts un petit peu de vérité là-dedans. Hein. Il faut pas, on peut se retrouver et ce n'est pas forcément chaque qualité peut avoir son défaut hein, d'une certaine manière. On a le défaut de ses qualités, hein, on a les qualités de ses défauts éventuellement. Vous voyez, donc c'est pas forcément toujours faux. Hein. Ça ne séduirait pas autant autrement. Voilà. Le romantique peut être aussi individualiste, mais il est aussi artiste ou créatif. Vous voyez, ce ne sont pas des typologies fermées, essentiellement. On peut finalement y mettre autre chose. Voilà, mais le romantique peut avoir sa part d'ombre d'être facilement déprimé ou mélancolique. En 5, vous avez l'observateur, qui peut être aussi cérébral, penseur, solitaire, chercheur. Mais il peut être aussi sa face d'ombre dans sa tour d'ivoire ou radin. Le loyaliste en 6, il peut être aussi légaliste, gardien, mais sa face d'ombre, c'est de se sentir menacé en permanence, froussard, etc. Donc vous voyez, on va continuer quand même, épicurien, il est jouisseur, curieux, rêveur, mais il peut avoir sa face d'ombre, c'est d'être essentiellement jouisseur. Le chef, en 8, peut être meneur, il va se confronter aux autres, et sa part d'ombre, c'est son autoritarisme. Vous voyez, voilà. Et le dernier, le médiateur, temporisateur, pacificateur, mais il peut être aussi détaché du réel, faire un peu d'angélisme. Voilà. Donc vous voyez, ces différentes typologies de caractère correspondent effectivement à des choses que l'on peut repérer en soi ou chez les autres. Le premier problème, c'est que dans cette perspective de l'énéagramme, ce caractère, il est d'une certaine manière fondamental et dès les premières années de la vie, il va être finalement définitif. Et on a, pour l'énéagramme, une typologie qui est première, si vous voulez. Alors, on s'en arrête en général là, quand on fait de l'énéagramme dans nos milieux chrétiens, si vous voulez, parce qu'on n'approfondit pas hein, les questions qui sont derrière. Et peut-être que ça peut donner quelques clés pour comprendre ce qu'est l'autre. Encore une fois, voilà. Le problème, c'est de rester dans cet enfermement, vous voyez. Les typologies caractérielles, par exemple celle de Lecesne, les typologies du caractère, Lecesne a fait un travail considérable pour aussi serrer les différents caractères. Cependant, ce sont des typologies qui sont ouvertes. Là, nous sommes finalement dans un cercle clos. C'est un des premiers problèmes. Et puis, dans le cadre initiatique, eh bien, on va, par exemple, on va aller du 1, le perfectionniste aura pour évolution d'essayer d'aller vers le romantique. Hein ? C'est la loi des 7. Si vous divisez 10 par 7, vous avez dans un premier temps 1, mais je retiens 3, ça fait 30, et vous allez au 4. 4 fois 7, etc. Et vous voyez, vous allez, si vous divisez 10 par 7, vous allez faire 10 par 7, par exemple, vous allez faire, ou alors 1 par 7, vous allez avoir 0,1, 4, 2, 8, 5, 7. Voilà, vous voyez, vous allez diviser et vous allez avoir cette progression initiatique où un perfectionniste devra faire des exercices pour aller vers le romantisme et d'une certaine manière casser sa tendance première et évoluer, hein, vous voyez, vers... Donc, de manière assez mécanique, on va essayer de casser la typologie de base pour progressivement embrasser les différents types et celui qui aura vécu et expérimenter ces différents types sera l'homme accompli. Voilà. Donc vous voyez un petit peu, mais il y a aussi l'aspect régressif. Hein. Un perfectionniste va pouvoir régresser en épicurien, va pouvoir régresser en observateur, etc. Vous voyez, hein, il y a soit un processus évolutif ou un processus involutif. Alors, je ne rentre pas aussi dans les ailes, parce que c'est un peu compliqué, mais vous avez trois dans le triangle, vous avez médiateur, loyaliste et battant, et à chaque typologie représente aussi des ailes, c'est-à-dire vous pouvez être de tel type, mais avec des tendances, vous voyez, de part et d'autre. Donc c'est un système qui peut être extrêmement élaboré, mais finalement se réduit à, si vous voulez, cette histoire de tempérament bien déterminé avec sa compulsion, premier niveau. Deuxième niveau, vous avez des gens qui sont plutôt de type instinctif, d'autres qui ont plutôt mental et d'autres émotionnel, deuxième niveau. Et vous voyez, vous pouvez évoluer d'un niveau à un autre pour accomplir l'homme qui serait totalement accompli. On est là, pour des chrétiens, dans une perspective qui est pélagienne, c'est-à-dire où on essaye, par son introspection, d'acquérir, finalement, une connaissance suprême. Où la grâce de Dieu, la grâce qui peut davantage, la grâce qui peut venir toucher nos lieux de péché et de blessure, finalement est absente. Nous pouvons tout par nous-mêmes. Alors, c'est un peu compliqué cette histoire-là, parce qu'il y a jusqu'à des évêques qui s'y mettent. L'évêque émérite qui s'appelle Rémy Dereau, évêque émérite du diocèse de Victoria au Canada, père du Concile Vatican II, depuis sa retraite, anime des sessions sur le développement spirituel et la justice sociale. Il examine les signes du temps qui nous aident à poursuivre l'humanisation de notre monde d'aujourd'hui. C'est un théologien qui aime creuser les Écritures ainsi qu'un animateur certifié en énéagramme. Et il n'a fait avec Pearl Gervais, qui est canadienne, animatrice certifiée en énéagramme, par Hélène Palmer. Hein ? Et David Daniels, on n'a pas parlé de tous les actuels, voilà. Eh bien, elle travaille sur l'énéagramme depuis 1981 et a animé des stages énéagramme en Europe, en Chine, aux États-Unis. Elle est avec Rémy Dereau, Monseigneur Rémy Dereau, l'auteur du livre « Les caractères des personnages de la Bible ». Et elle faisait un stage les dimanches 10 et 11 septembre, stage qui était chez les dominicains du couvent de l'Annonciation au Faubourg Saint-Honoré à Paris. Vous voyez, voilà, je ne sais pas si vous voyez, même des personnes hautement, enfin, représentatives de notre Église rentrent progressivement dans ces perspectives-là. Je ne sais pas s'ils ont suffisamment creusé l'arrière-fond. Un jésuite qui s'appelait le père Pacois, hein, qui est un jésuite éminent aux États-Unis, qui est professeur d'hébreu biblique, a été lui-même extrêmement séduit par l'énéagramme jusqu'à ce qu'il découvre les fondements ésotériques, voire occultes. Et il a ensuite été extrêmement vigilant et il a fait un certain nombre de conférences pour regretter déjà d'avoir fait ce type de travail. Hein. Et puis, voilà. Je suis allé, il y a 3 ans, l'été dernier, il y a 3 ans, un été, pardon, à Loyola. Eh bien, à Loyola, centre naturellement des jésuites en Espagne, eh bien, il y avait des formations aussi à l'énéagramme. Un certain nombre de jésuites, hein, sont très très séduits par ces méthodes-là. D'autres, heureusement, prennent un petit peu de recul et restent dans la tradition de l'accompagnement ignatien sans se servir d'autres outils que les exercices spirituels de Saint Ignace. il y a aussi trois auteurs qui se sont mis à écrire sur l'énéagramme, et c'est un grand référent dans nos milieux chrétiens. Ça s'appelle l'énéagramme, un itinéraire de la vie intérieure, chez Desclée de Bauer. C'est paru en août 2003. Alors ils se sont mis à trois. Il y avait Patrick O'Leary, jésuite. Il y avait Robert Nogosek, qui est père de Sainte-Croix. Vous savez que pour les Angevins, que les pères de Sainte-Croix sont nés ici, dans la Sarthe. Et puis donc Maria Bézing, donc jésuite, et Patrick O'Leary, non, Maria Bézing, religieuse dominicaine, un père de Sainte-Croix et un jésuite, pour se mettre à écrire cet itinéraire de la vie spirituelle, avec l'énéagramme. Reconnaître en soi les conditionnements compulsionnels de son propre type selon les perspectives de l'énéagramme devient pour eux l'objectif à atteindre pour rejoindre l'image sans ombre de la personnalité de Jésus. La compulsion constitue le péché contre la plénitude. Vous voyez, je cite page 54 de ce livre. La compulsion constitue le péché contre la plénitude. Or, par définition, une compulsion est quelque chose, un mécanisme presque inconscient. Et précisément, le péché est l'objet même de notre liberté. Donc si nos compulsions, vous voyez, qui sont déterminées par nos pulsions intérieures inconscientes, où se situe la notion même de notre responsabilité dans le péché? Jésus intègre les 9 types et vit en plénitude toutes les qualités de l'humanité étrangers au péché et à toute compulsion. En faisant sienne les 9 façons de vivre en l'homme, tout en refusant l'aspect compulsif, Jésus est vraiment apte à proposer à chaque type de personnalité un véritable modèle du voyage intérieur à entreprendre vers la liberté. Donc, ils ont mis notre Jésus dans le bocal de l'énéagramme. Et ils vont trouver des passages de l'Évangile qui correspondent aux 9 types. Vous voyez ? On est là, vous voyez, dans une perspective vraiment où on fait rentrer Jésus à l'intérieur d'un système. Avec la qualité positive du 1, se retrouve dans l'idéalisme de Jésus. Soyez parfait comme votre Père des cieux est parfait. Jésus se montre en lui-même comme modèle de perfection. Cette perfection permet à Jésus de renvoyer chacun à soi-même, comme dans l'épisode de la femme adultère, en présentant une image de la perfection qui dépasse nos imperfections. Chaque type ayant sa part d'ombre, la difficulté du 1, perfectionnisme, serait d'accueillir les gens avec leur imperfection, ainsi que d'accueillir ses propres imperfections. Les types 2 trouveront en Jésus le modèle de la serviabilité, la parabole du bon samaritain, en étant l'archétype. Vous voyez, on va tout regarder à travers ce prisme. Pour ces auteurs dépassant les rigueurs de la loi pour le service du prochain, la partie sombre de l'altruiste serait de gagner l'amour des autres en s'oubliant faussement soi-même. Donc on fait rentrer le spirituel dans des perspectives psychologisantes. Le risque de ce type d'approche est de permettre une sacralisation de la psychologie ou de psychologiser le christianisme à travers une grille d'analyse qui semble pertinente dans un premier temps, mais qui instrumentalise les récits évangéliques en les faisant entrer dans les fourches codines des 9 types de l'énéagramme. L'introspection et la connaissance de soi selon la typologie proposée par l'énéagramme peut être comparée aux perspectives de la psychologie jungienne, nous en parlions, de recherche du moi présent, du moi profond appelé le soi. Donc, le moi profond de Jung s'appelle le soi, différent du moi superficiel ou du moi compulsif désigné par l'ego. Le Christ est alors le symbole du soi profond. Le Christ, c'est le soi profond à atteindre. Le risque de ce psychologisme serait d'aller de Jésus à notre propre moi, au lieu d'aller de tout notre être vers Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Est-ce que vous voyez la subtile inversion possible de perspective? Voilà, dans Psychologie et Alchimie, Jung reparle un peu de ces phases ombrageuses ou lumières de l'homme, ou lumineuses de l'homme. Jung traite de la question de l'intégration du démon. Mais attention, on est séduit par Jung parce qu'il parle de spiritualité, alors que Freud avait laissé ça complètement de côté. Donc, étant donné qu'il parle du spirituel, on va vite aller le chercher et le ramener vers nous. Mais l'arrière-fond de la pensée jungienne est encore une fois une pensée théosophique et n'a rien à voir avec la spiritualité chrétienne de la révélation. Donc, Jung traite de la question de l'intégration du démon en affirmant que tant que le démon n'est pas intégré, le monde ne peut pas devenir une totalité et l'homme ne sera pas sauvé. Il faut intégrer, comme vous avez vu sur le schéma, hein, les deux anges, du bien et du mal, tout cela on l'a en soi, et seul l'homme initié peut aller au-delà de ses conceptions du bien et du mal. Voilà. Nous retrouvons les mêmes concepts hein, chez Blavatsky, chez Steiner, etc. Psychologiser de cette manière la spiritualité tend à remplacer la religion par des thérapies ou des techniques de développement personnel. L'homme accompli selon cette perspective étant celui qui a pris conscience et éliminé en lui les dualismes de valeurs de bien et du mal, devenant ainsi tolérant à tout, indifférent au niveau moral et tiède au niveau religieux. Vous voyez, on est dans un no man's land où tout est possible. Nous y reviendrons avec une petite introduction à la PNL tout à l'heure. Pascalide, dans Les Neuf Portes de l'âme, va aussi essayer, mais de manière assez fondamentale, puisque c'est un thomiste, hein, il a un doctorat de théologie, il est aussi médecin, il a fait de la philosophie, donc il a quelques arguments, pour lui. Si l'on considère l'énéagramme comme un simple instrument pour l'analyse du caractère, mais un instrument qui n'a pas trouvé son lieu de réelle fiabilité sur le plan scientifique. Encore une fois, je le redis, hein, il n'y a pas d'études universitaires réelles sur l'outil que pourrait représenter de manière fiable l'énéagramme. Voilà. Si donc l'on considère l'énéagramme comme un simple instrument pour l'analyse du caractère, il serait licite pour un chrétien de l'utiliser, bien entendu, comme à tout outil. Mais la question est de savoir si l'on peut considérer l'énéagramme comme un simple instrument alors qu'il est conçu comme un système clos où rien n'échappe à son analyse. La personne devra nécessairement se situer dans une typologie particulière, donc leur étalon, une typologie, encore une fois, sans recours psychologique. Les tests psychologiques répondent à des processus de paramétrage rigoureux, avec des étalonnages extrêmement précis. Distinguer, encore une fois, compulsion et péché, alors que la compulsion serait la face obscure du type auquel on appartient, nous fait entrer dans une dialectique plus sophistiquée, mais effectivement sans fondement. Voilà. En plus de ça, il y a aussi un argument un peu difficile. C'est-à-dire qu'une des grandes difficultés avec les gens qui possèdent ou qui font l'outil de l'énéagramme, c'est qu'ils disent, eh ben, on a peur, hein, si vous ne voulez pas faire ça. Et puis, expérimentez. Vous ne pouvez pas en parler sans avoir expérimenté ce qu'il en est. Le problème, c'est que cette argumentation nous fait rentrer précisément dans l'expérimentation, comme si nous ne pouvions pas avoir de raisons distanciées qui nous permettent d'argumenter, comme j'essaye de le faire, pour éviter d'expérimenter avant de, vous voyez, d'avoir un élément de réflexion. C'est précisément un des gros arguments des gens qui font des thérapies ou des techniques de développement personnel. Ils nous disent, on ne peut pas discuter, vous n'avez pas expérimenté. Vous faites l'expérience et vous verrez, après nous pourrons discuter. Hein ? Comme si notre élément rationnel était sans cesse à mettre de côté et qu'il fallait absolument expérimenter pour pouvoir discuter avec eux. Mon ami qui faisait de la méditation transcendantale quand j'avais 19 ans et qui essayait de m'entraîner à expérimenter hein, les mantras de la méditation n'avait pas d'autre argument que cela. Il fallait absolument rentrer dans l'expérience et nous ne pouvions pas comprendre si nous ne rentrions pas dans cette expérience. Attention, nous avons, nous les chrétiens, deux axes, encore une fois, celui de la raison rationnelle, de la distanciation par rapport à l'événement, à l'émotionnel et à l'expérience, et puis nous avons l'argument de la foi. Voilà. Et donc ne pas accueillir l'énéagramme serait refuser de reconnaître ses propres mécanismes de défense, ses compulsions ou ses dysfonctionnements, et ne pas accepter cette forme d'itinéraire obligé qui veut mieux se connaître et connaître le fonctionnement des autres. Donc vous voyez, on a des arguments comme ça qui sont extrêmement prégnants quand on a affaire à des gens qui sont rentrés dans ces bocaux-là. Voilà. La question profonde, c'est la suivante. Se changer à travers des outils ou se convertir? Quelle est la question? Vous voyez, c'est une question extrêmement profonde qui est, est-ce qu'on va essayer de se changer ou est-ce qu'on accepte de se convertir? Dans une vraie relation, pas une relation à soi-même, dans une vraie relation à la parole de Dieu. L'essentiel pour un chrétien, c'est de rencontrer le Christ et de se laisser transformer par lui. Non pas dans des expérimentations d'une semaine, d'un week-end ou de plusieurs week-ends, où on va enfin se connaître soi-même, se connaître les autres et les modes de fonctionnement. Non. Rencontrer le Christ, c'est se laisser transformer par lui dans les événements du quotidien, dans notre réalité incarnée, et de constater dans l'inattendu la gratuité de sa présence agissante. Cette gratuité permet de nous connaître mieux et de connaître les autres, mais dans un rapport de relation et de gratuité inattendue de reconnaître cette tendresse et cet amour de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est ça la conversion. C'est pas d'aller chercher loin dans notre nombril, hein. C'est d'habiter notre quotidien et de nous convertir dans l'ici et le maintenant. C'est pas de marcher avec un rétroviseur pour voir ce qui s'est passé dans notre passé, hein. Même si effectivement ça peut être nécessaire dans des psychothérapies ou dans des processus lents qui nécessitent une maïeutique très lente pour s'accoucher et se comprendre soi-même sans interprétation d'un tiers. Un vrai psychothérapeute laisse émerger la parole et ne va pas confirmer trop rapidement la subjectivité émotionnelle d'une impression. Voilà, c'est très important ces questions-là. Parce qu'aujourd'hui, notre Église est tentée par ces techniques. beaucoup de personnes vont chercher à mieux se connaître soi-même, abandonnant parfois nos grandes traditions. Tradition de l'accompagnement spirituel chez les jésuites, où vous savez, dans l'accompagnement, on ne touche pas. On met la personne face à la parole et on laisse la personne dans le silence voir comment cette parole va résonner en elle et non pas dans un prisme préétabli. Il y a toujours cet inouï, cet inattendu de cette rencontre avec la parole. Les sciences humaines, bien entendu, nous aident à cette connaissance de nous-mêmes, mais dans une rigueur et une exigence qui ne peut se construire qu'avec les années. Ça prend du temps. Or, là, encore une fois, l'immédiateté des gens qui pratiquent cette technique, hein, en quelques semaines, ils deviennent praticiens de l'énéagramme ou de la PNL ou de l'analyse transactionnelle. Il y a quelque chose qui nécessite la maturation du temps. Or, nous voulons des techniques immédiatement opérationnelles et efficaces. Voilà.